Le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Au Rwanda, les préparatifs des commémorations du 25e anniversaire du début du génocide des Tutsis, ce sera dimanche à Kigali. En l'absence d'Emmanuel Macron qui a décliné l'invitation, alors qu'en France, le débat tourne encore et toujours sur les questions d'accès aux archives. On y revient dans ce journal. L'inquiétude en Libye après la récente offensive du maréchal Haftar sur Tripoli, offensive pour l'instant repoussée, la situation libyenne est au menu des discussions du G7 des ministres des Affaires étrangères qui se tient en ce moment en France à Dinard. Nous ferons le point également dans ce journal sur la mobilisation des manifestants algériens qui ne faiblit pas cette mobilisation. Sur le Brexit, dont on ne sait plus du tout s'il va se produire avant ou après, voire bien après la date des élections européennes. Et puis, nous reviendrons sur la situation de Carlos Ghosn, retourné en prison hier au Japon et suspect d'avoir fêté ses 60 ans en 2015 directement avec l'argent de Renault-Nissan. La grande gêne française à chaque retour du mois d'avril depuis 25 ans, et particulièrement au moment des anniversaires marquants comme justement le 25e ces jours-ci. Les autorités françaises démontrent invariablement qu'elles ont décidément beaucoup de mal à regarder l'histoire rwandaise en face, notamment bien sûr en ce qui concerne les raisons du déclenchement du génocide des Tutsis en 94 et en ce qui concerne l'implication de la France. Cette année, Emmanuel Macron a décliné l'invitation qui lui avait été faite de participer aux commémorations officielles. Ce sera dimanche à Kigali, en tout cas pour le début de ces commémorations qui vont s'étaler sur un mois. Il a en revanche, le président français, installé aujourd'hui une commission de 9 historiens qui devraient avoir accès à toutes les archives françaises, comme l'assure son président Vincent Duclerc. Mais une commission dont la composition pose question. Claude Guibal.
Aucun spécialiste du Rwanda, ni l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau, celui-là même qui avait suggéré à Emmanuel Macron de créer cette commission qui vient d'être annoncée aujourd'hui, ni Hélène Dumas, spécialiste reconnue du sujet et que l'on attendait également au sein de ce comité. L'Élysée se défend en expliquant avoir fait le choix de la méthodologie afin que les travaux soient dépassionnés. Il y a donc des chercheurs reconnus pour leur expertise sur la Shoah ou le génocide arménien, des gens habitués à travailler sur les archives ou maîtrisant les processus de décision publique, mais pas des experts géographiques. Il s'agit de sortir de l'affrontement classique autour de la question rwandaise, explique-t-on à l'Élysée. Un sujet tellement clivant qu'il aurait empêché toute avancée sur la question depuis 25 ans, dit-on encore. Seuls les 9 membres de cette commission auront accès à l'ensemble des archives. Il n'y aura donc pas de déclassification à proprement parler. Le sujet de la déclassification est ultra sensible, notamment au sein de l'armée, épidermique quant à l'évocation de son éventuelle responsabilité dans le conflit. Et si la commission est chargée de faire la lumière sur les responsabilités, la chaîne de décision, les informations dont on a ou pas tenu compte à l'époque, elle doit aussi fournir une base de matériaux sur laquelle se fera l'enseignement du génocide dans les collèges et les lycées.
Claude Guibal, la question donc est celle de l'accès aux archives et de la liberté des historiens. Or, pour François Graner de l'association Survie, qui est lui-même historien, il ne peut y avoir d'avancée sur le dossier rwandais sans accès total et public aux archives. On l'écoute.
Nous, ce qu'on demande, c'est l'ouverture complète des archives et qu'elles ne soient pas accessibles justement juste à un petit groupe d'historiens, mais qu'il y ait une vraie ouverture complète. Et là, quand on dit de tout, les anciennes archives de l'Élysée, mais aussi celles du ministère des Affaires étrangères et surtout celle de la Défense, celle des services secrets. À la Défense, on parle de centaines de cartons, de centaines de milliers de pages. Et tout ça, il faut que ça soit accessible aux chercheurs publiquement pour qu'on puisse avoir un vrai débat scientifique, un débat de fond sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis.
De son côté, la mandataire des archives de la présidence Mitterrand, Dominique Bertinotti, se dit prête à bien accueillir les historiens de la commission sur le Rwanda et à envisager leurs demandes avec bienveillance. Ces archives Mitterrand comprennent des documents relatifs à l'engagement de la France au Rwanda. Toujours autant de monde dans les rues algériennes. De vendredi en vendredi, les manifestants qui protestent depuis près de 2 mois contre un régime hors d'âge et cadenassé peuvent mesurer et fêter les avancées obtenues grâce à leur mobilisation. Depuis la semaine dernière, c'est la démission officielle et bientôt effective d'Abdelaziz Bouteflika qui est l'événement marquant. Bonsoir Thibaut Cavaillès.
Bonsoir Benoît.
La victoire est majeure pour les manifestants, mais ils ne veulent évidemment pas en rester là. Ils veulent la chute de tout le système.
Un système qui tient désormais en 3B, Ben Salah, président du Sénat et chef d'État par intérim, Bédoui, premier ministre, et Belaïs, président du Conseil. Les Algériens ne veulent pas que ce soit eux qui organisent la prochaine présidentielle, quand bien même, c'est ce que dit la Constitution.
La Constitution, elle était piétinée pendant 57 ans à peu près. Normalement, on peut la repiétiner, si on peut dire ce terme.
Un texte longtemps bafoué, donc qui n'a aucune valeur aux yeux de Reda. Il est informaticien haut rang, mais représente une sécurité pour Hiles, publicitaire à Alger.
Moi, je suis pour qu'on reste dans le cadre constitutionnel. Avec Ben Salah ou avec Nordine Bedoui, à partir du moment où ils apportent les garanties nécessaires, pourquoi pas? Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on n'arrive pas à trouver du consensus, on n'arrive pas à organiser les élections, et donc du coup, que le pays, encore une fois, bascule vers un état militaire dû justement à un vide.
Mais la rue, semble-t-il, donc ne veut pas lâcher une solution, peut-être une présidence à plusieurs têtes, déjà vue en Algérie. Naoufel El-Brahmi El-Mili est politologue.
On va vers un vide juridique certain. J'imagine que le président du Sénat, comme il est tellement attaqué, va présenter sa démission. Si la rue continue à refuser, il faudrait aller vers une décision collégiale.
Ce qu'on avait connu entre 92 et 94, le Haut Comité d'État, est-ce que ça peut être une solution, ça?
Sous une autre forme, c'est-à-dire un conseil présidentiel, tout dépend comment vont réagir les gens aux noms qui sont proposés.
Et parmi les noms qui recueillent l'adhésion des manifestants, un Mustapha Bouchachi, avocat, militant pour les droits de l'homme, ou Djamila Bouyred, figure de la résistance. Les Algériens dans les manifestations parlent désormais de prendre leur carte d'électeur. Ils sont rares à en avoir. Le temps de refaire les fichiers, l'échéance de 90 jours avant la prochaine élection semble intenable, c'est ce que dit, tout du moins 90 jours, c'est ce que dit la fameuse Constitution.
Merci Thibaut Cavaillès. De l'autre côté de la frontière, à l'Est, la situation en Libye et les bruits de bottes, notamment provoqués ces derniers jours par l'ambitieux maréchal Haftar. Ce soir, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déclare quitter la Libye le cœur lourd et profondément inquiet. Cette crise libyenne est au menu du G7 des ministres des Affaires étrangères qui se tient à Dinar jusqu'à demain. Nathanaël Charbonnier.
La Libye est l'une des préoccupations du G7 qui vient de débuter. Pour être tout à fait honnête, le sujet sera évoqué plus longuement demain entre les 7 ministres des Affaires étrangères présents à Dinar. Un temps sera consacré en effet aux différentes crises qui existent sur la planète et la liste est longue. Syrie, Iran, Moyen-Orient, Palestine, Russie, Ukraine, Venezuela, Chine et enfin la Libye. La Libye qui s'invite en urgence depuis que le maréchal Haftar a décidé de lancer ses troupes sur la capitale Tripoli. Il faut dire que les Occidentaux ont plutôt misé sur l'autre homme fort du pays, le président Sarraj. Mais qu'importe, ici l'important sera de parler de stabilité. Personne n'a intérêt à ce que la Libye s'enfonce dans la crise, car la Libye, depuis la mort de l'ancien dictateur Kadhafi, c'est la porte qui permet à la fois aux migrants de remonter en direction de l'Europe, mais aussi aux djihadistes de descendre en direction du Sahel. Alors bien sûr, il faudra guetter les nuances d'approche entre l'Italie, dont la Libye était une ancienne colonie, et la France qui s'est investie depuis un an pour tenter d'organiser des élections sur place. La France très préoccupée, il paraît que le ministre Jean-Yves Le Drian suit heure par heure l'évolution de la situation.
Nathanaël Charbonnier et ce soir le maréchal Haftar qui commande les forces dans l'Est libyen a déclaré au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres sur le départ donc que son opération sur Tripoli se poursuivrait jusqu'à, je cite, l'élimination du terrorisme. Le Brexit pourrait-il être repoussé encore de 12 mois supplémentaires? Le Royaume-Uni pourrait-il rester un pied dedans et un pied dehors, cependant que l'Union européenne serait-elle assise entre deux chaises? Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Notre correspondant permanent à Londres. Nouvelle bataille de date aujourd'hui entre Bruxelles et Londres et finalement niveau supplémentaire d'incertitude quant à l'avenir du Brexit.
Oui, étrangement, c'est la photo d'une responsable politique française, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui s'affiche ce soir sur les pages du Guardian. Amélie de Montchalin, les yeux écarquillés, sourcils interrogateurs, à l'image de l'ensemble de la presse qui met en avant le scepticisme des Européens face à la demande de report de Theresa May, scepticisme d'autant plus grand que l'accord que la première ministre britannique promet de trouver est toujours loin d'être conclu. Les discussions se poursuivent avec Jeremy Corbyn, mais le chef de file de la gauche continue de réclamer comme préalable à tout compromis l'organisation d'un deuxième référendum, et des sources proches du gouvernement expliquent qu'il n'en est pas question. Alors, que peut-il se passer si aucune solution n'est trouvée entre la droite et la gauche? En théorie, ce sont les parlementaires qui sont censés reprendre la main. Theresa May May le dit dans sa lettre envoyée ce matin à Donald Tusk, le gouvernement se pliera à la volonté des députés. Encore faut-il que les députés en question arrivent eux-mêmes à proposer une solution crédible. Les travaillistes comme les Tories sont plus divisés que jamais. Dernière déclaration cet après-midi, Jacob Rees-Mogg, eurosceptique et ultra-conservateur, commente la situation avec ces mots. Le parti conservateur est totalement en déshérence.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres pour France Culture. En France, le procès en appel d'Abdelkader Merah et de Feta Malki devant la cour d'assises de Paris, suite avec aujourd'hui l'examen des faits qui se sont déroulés à Montauban le 15 mars 2012. Ce jour-là, le frère du principal accusé, Mohamed Merah, a ouvert le feu sur 3 militaires, 3 parachutistes, 2 d'entre eux sont morts et un troisième blessé et toujours hospitalisé à Paris aux Invalides, 7 ans après les faits. Loïc Libert a témoigné aujourd'hui par visioconférence. Florence Turme.
Ce matin, la photo d'un grand gaillard en béret rouge, sourire aux lèvres et salut militaire s'est affichée sur l'écran. La présidente de la cour tient à donner un visage aux victimes. Mais aujourd'hui, Loïc Libert ne veut pas apparaître à l'image. Comme lors du premier procès, il suit les débats par visioconférence depuis sa chambre de l'hôpital des Invalides et il prend la parole, voix étouffée, en s'excusant par avance. Tétraplégique depuis l'attentat du 15 mars à Montauban, il a besoin de soins continus et d'une aide respiratoire en permanence. Aujourd'hui, je suis emprisonné dans mon corps. J'essaye de survivre, je m'accroche, je me bats pour tenir, j'espère que la cour prendra la bonne décision pour le jugement de ces criminels. Son intervention n'a duré qu'une poignée de minutes, point final aux témoignages qui se sont succédés, famille toujours endeuillée des 2 autres militaires abattus par Mohamed Merah, mais aussi cette jeune femme, ancienne employée d'une boulangerie, témoin de la tuerie et qui revoit encore l'un des militaires tenter de se relever, s'accrocher à un poteau, le tueur l'a agrippé par le bras, a tiré à nouveau une balle en pleine tête. Détail sordide que la sœur de la victime, Radia Le Gouad, a appris en venant à l'audience. « Je suis d'une nature plutôt pudique », déclare-t-elle, la gorge nouée. Mais au fil des semaines, une espèce de colère s'est installée. Dans le box, ils me foutent en colère, ils prennent un peu plus d'assurance. Ce sont tous des délinquants avec une religion sortie des prisons. J'ai été éduquée dans une famille musulmane, poursuit-elle. 6 enfants d'imams, je ne comprends pas ce qu'on entend ici. Allusion au terme de conversion, maintes fois répétée, et à son tour, sa mère en pleurs lance à la cour, sans un regard pour les accusés. Les gens qui se convertissent, c'est au terrorisme et à rien d'autre. Des gens qui ne méritent pas de vivre en société.
Florence Sturm, le préjudice d'anxiété lié au danger de l'amiante peut désormais être reconnu pour tout salarié ayant été exposé. C'est une décision importante de la Cour de cassation qui a été rendue aujourd'hui. Elle était attendue par de nombreux plaignants. Jusqu'ici, seuls les salariés ayant été particulièrement exposés pour avoir travaillé dans certains établissements pouvaient tenter de faire reconnaître ce préjudice. Le SIDAction, pendant 3 jours, une édition marquée cette année par l'accent qui est mis sur les sensibilisations auprès des jeunes qui se font encore beaucoup d'idées fausses sur le sida. 73% des jeunes disent que l'éducation nationale ne fait pas assez pour les informer et les sensibiliser. Tara Schlegel a suivi pour France Culture le planning familial qui vient parler aux adolescents de leur santé sexuelle. Elle a suivi une séance qui se déroulait hier à l'Institut des jeunes aveugles dans une classe de 3e. Reportage.
Ils sont comme tous les jeunes de 16 ans, Lansana, Julie et Attar, quand Marianne, du planning familial, leur pose la question.
Qu'est-ce qu'il y a comme sujet, rapport à la sexualité ?
En début de séance, ils fournissent la réponse sérieuse attendue par les adultes.
Les maladies.
Le sida.
Commence donc par la prévention sérieuse, mais rapidement la conversation bifurque.
Plus on avance, en fait, plus on voit que leurs préoccupations dans une animation qui se passe bien, plus on voit que leurs préoccupations se tournent en général beaucoup plus vers les problématiques du plaisir, de la norme.
Vous savez ce que c'est le lubrifiant ? Ouais. Le lubrifiant qu'on vous donne, là.
Je sais qu'il y en a qui prennent ça, regarder des sites.
Non, mais
ils prennent une serviette, lubrifiant, après...
Et qu'est-ce qui se passe après ?
Ça gonfle. Voilà. le pénis, quoi, voilà.
C'est la masturbation dont on parle, en
voilà,
fait.
C'est ça.
Ouais. Les animatrices évoquent donc tout ce qui intéresse les ados, le porno, les préservatifs au goût de fraise, ceux qu'on n'arrive pas à mettre.
Pas moi, il va s'éclater ou...
Et bien sûr, les infections, et les jeunes gardent la tête froide.
La sexualité, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ?
Bah là, en France, non, parce que comme aujourd'hui, on a un planning familial, et du coup, ils nous parlent. Il faut faire quoi si on n'a jamais on a quelque chose comme ça ? On sait qu'on va prendre des médicaments, ouais, du coup j'ai pas trop peur.
Faut pas le faire avec n'importe qui aussi.
L'amour, tu veux dire?
Oui, genre faut se, comment dire, faut essayer de se renseigner et tout, donc après, si t'as fait tout ça, tu ne devrais pas avoir peur, quoi.
Enfin, le port du préservatif, on n'est pas dupe et on sait que tout le monde le porte pas. Et comme disait Marianne, enfin, c'est aussi cette injonction qui est compliquée, hein, parce que la sexualité, ça doit rester une sexualité de plaisir. Et avec toutes les injonctions de se protéger des IST, de se protéger des grossesses, plus le risque de violence, la question du plaisir, elle apparaît pas forcément comme évidente, alors que c'est quand même la base du truc.
Garder un peu de légèreté, donc c'est indispensable. Amélie et Marianne le savent, même si elles rappellent que 6400 personnes découvrent chaque année leur séropositivité en France.
Tara Schlegel, le site d'action 2019, c'est jusqu'à dimanche. Carlos Ghosn, de retour en détention hier dans le cadre d'une garde à vue concernant une quatrième affaire de malversation. Carlos Ghosn qui ne sera pas libéré avant au moins le 14 avril. Ainsi en a décidé tout à l'heure le tribunal de Tokyo, faisant suite aux demandes du parquet, alors que de nouveaux soupçons concernant ce qui pourrait devenir encore une autre affaire vient peser sur l'ex-patron de Renault. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir.
De la cellule investigation de Radio France. D'après votre enquête, de nouvelles questions très sérieuses se posent, et notamment celle-ci. Carlos Ghosn aurait-il fait financer son propre anniversaire de manière détournée par une filiale de Renault-Nissan? Un audit dont vous avez eu connaissance, Laetitia, envisage très sérieusement cette hypothèse.
Effectivement, selon les premières conclusions de cet audit effectué à la demande de Renault et de Nissan et dont nous avons eu connaissance, Carlos Ghosn aurait fait payer par les deux constructeurs un événement organisé à son profit. Cet événement, c'est une soirée au château de Versailles le 9 mars 2014, officiellement pour célébrer les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. Et ce soir-là, on n'a pas lésiné sur les moyens. Comme l'écrit à l'époque une journaliste libanaise, voici un extrait de son article.
Depuis les hallebardiers qui montaient la garde, les demoiselles d'honneur en habit d'époque qui escortaient les invités pour la visite des appartements royaux jusqu'aux agapes royales supervisées par Alain Ducasse. La nuit, Renault et Nissan de Carlos Ghosn présentaient une allure à la fois royale et républicaine.
Une soirée très fastueuse, Laetitia, qui a coûté combien ?
Alors ça aurait coûté 634 000 euros au total, une facture réglée par une filiale de Renault et Nissan basée aux Pays-Bas. Sauf que si on regarde de plus près, on peut se demander si ce sont bien les 15 ans de l'alliance qui sont fêtés ce soir-là et pas plutôt l'anniversaire de Carlos Ghosn. D'abord parce que la date correspond précisément aux 60 ans de l'industriel et surtout parce que sur la liste des invités, il y a très peu de membres de l'alliance Renault-Nissan, comme l'a constaté le journaliste à l'Obs. Clément Lacombe.
Sur les 104 invitations pour deux personnes qui ont été lancées, il n'y avait que deux salariés de Renault-Nissan qui étaient présents ce soir-là. Et d'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est qu'il y avait la belle-mère de Carlos Ghosn, il y avait ses enfants, il y avait les enfants de son épouse. Il avait aussi envoyé une invitation à un des patrons de l'université de Stanford où ses quatre enfants ont fait leurs études.
Plusieurs dirigeants de Renault m'ont confirmé qu'ils n'avaient pas été invités à cette soirée. L'un d'entre eux a accepté de me parler à condition de rester anonyme. Pour lui, il s'agit bien d'une soirée privée, payée par l'entreprise. Nous avons fait lire ses propos.
Si on fait un anniversaire de l'Alliance, il y a des invités naturels qui sont les membres du directoire de l'Alliance et son créateur, Louis Schweitzer. Si ces membres ne sont pas conviés, c'est que l'événement majeur n'était probablement pas l'anniversaire de l'Alliance, mais l'anniversaire de Carlos Ghosn.
Alors qu'est-ce qu'on répond, Laetitia, chez Renault ?
J'ai contacté le service de presse du groupe, l'avocat de Carlos Ghosn et sa conseillère personnelle en communication. Et ils ne font aucun commentaire. J'ajoute qu'une autre soirée à Versailles fait, elle, l'objet d'une enquête du parquet de Nanterre. Elle concerne cette fois le mariage de Carlos Ghosn. Mais au-delà de ces soirées, au cœur de l'enquête, il y a des interrogations sur le fonctionnement de la filiale néerlandaise qui a payé la réception des 15 ans de l'Alliance. Dans un communiqué, Renault dit avoir, je cite, « de sérieux questionnements concernant des dépenses de plusieurs millions d'euros ».
Merci Laetitia Chérel. Votre enquête est à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. Un temps perturbé sur l'ouest, des pluies orageuses sur le sud-est et de conséquentes précipitations du Languedoc-Roussillon jusqu'aux Cévennes et à la Provence avec de la neige sur les reliefs. Voilà pour le tableau général dressé par Météo France concernant la journée de demain. Côté température, des minimales qui seront comprises entre 0 et 7 degrés au lever du jour et des maximales pouvant monter jusqu'à 15 ou 20 degrés selon les régions du nord au sud.